Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de pouvoir être avec vous aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Donc à l'initiative de l'Université de Caen, nous vous proposons la diffusion du podcast de Rémission. Rémission, c'est un texte écrit par Yann Verburg, ici qui est mis en voix par Eugène Gébeléanou, réalisé au son par Rémi Billardon et interprété par Claire Puygrenier. Ce texte a été écrit dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Itinérance, et là nous avons fait la commande à Yann Verburg d'écrire le portrait d'une personne du territoire de Livarot. Et en fait, de fil en aiguille, de plusieurs rencontres, voilà, Yann a rencontré une personne dont il a écrit le portrait. Il va nous en dire un petit peu plus parce qu'il est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour Agathe. Oui, donc j'ai rencontré, suite à une commande de la Comédie de Caen, une personne qui a souhaité rester anonyme sur le territoire de Livarot. C'est une rencontre qui s'est faite d'ailleurs grâce à toi, Agathe. Merci, parce que j'ai pu rencontrer plusieurs personnes. Et j'ai été extrêmement sensible au parcours de cette femme. C'est un parcours extrêmement singulier. C'est une femme qui a travaillé pendant des années dans le monde de la publicité, dans les années 80-90, à des très hauts postes en tant que directrice de clientèle pour des très grosses boîtes de publicité. Là, j'étais extrêmement touché par cette femme. Pourquoi ? Non pas parce qu'elle a fait un grand parcours dans la publicité, mais au contraire, au moment où ça a commencé à basculer et qu'Internet est arrivé, elle a fait un burn-out et puis elle a remis en question toute sa vie et tout son parcours de femme, tous les sacrifices aussi qu'elle avait fait pour en arriver là où elle en était dans sa carrière professionnelle. Et elle a fait le choix de quitter son poste, de quitter Paris où elle vivait et de vivre seule en autonomie. Près de Livarot, c'est-à-dire qu'elle n'a plus jamais remis les pieds dans un supermarché de grande distribution et elle essaye au maximum de cultiver ce qu'elle mange et de vivre, c'est son mantra, en autonomie. C'est un choix qui peut se rapprocher du féminisme écologique. Elle a fait ce choix seule, en tant que femme, sans l'aide d'un homme. Elle a reconstruit une maison qu'elle a trouvée là-bas. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire toute seule, au maximum. Et ce choix de vie, cet engagement m'a profondément touché. Ça m'a interrogé sur la transition qu'on doit s'apprêter à vivre sous la menace du réchauffement climatique, sur nos habitudes de consommation, sur comment le capitalisme envahit tous les domaines de notre vie et nous pousse toujours à acheter davantage, comment aussi ces méthodes sont mises en place, mais aussi par les technologies. Il y a des textes que j'avais déjà écrits proches de ce sujet, comme sur l'obsolescence programmée. Du coup, j'ai eu envie de partir avec elle et puis sa personnalité flamboyante, extrêmement engagée, m'a beaucoup touchée, comme quoi les rencontres par le théâtre et dans le cadre de commandes, où elle peut être extrêmement touchante.
Et donc, en fait, c'est vrai qu'on peut dire qu'avant de rencontrer cette personne, tu as rencontré d'autres personnes, tu as rencontré plusieurs personnes avant de choisir d'écrire sur cette personne-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix? Est-ce que ça t'est venu comme une évidence ou comment ça s'est passé?
Pour moi, il y avait une forme d'évidence à l'intérieur de ça. C'était la première personne que j'ai rencontrée. J'ai rencontré 5 ou 6 personnes sur le territoire. Et c'était la première, et je me souviens de ses premiers mots. Elle me disait « Moi, j'ai rien à dire. je suis venue ici pour disparaître. » Et puis, il y a eu un petit temps, un petit blanc. Et après, elle a commencé à parler pendant une demi-heure sans s'arrêter. Et je me suis dit, cette femme a des choses à dire, en fait. Et voilà, elle m'a du coup posé des questions. Moi, je lui ai dit que j'avais envie d'écrire aussi pour une comédienne de plus de 50 ans, pour une actrice avec de la maturité, parce que c'est des rôles qui manquent beaucoup aujourd'hui au théâtre et même au cinéma. C'est un débat qui est en place sur que deviennent les actrices après 40, 50 ans. Et j'avais envie, moi, d'écrire du coup un texte pour une femme et une femme de cet âge-là. Elle a trouvé ça génial, ça l'a embarqué, puisque elle, bien évidemment, aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elle vit là-bas en transition. Elle a 60 ans. Donc, elle était emballée et elle a dit, ben si, c'est pour une actrice, voilà. De plus de 50 ans, moi, j'y vais à fond. Et elle était très emballée par la perspective de ce monologue.
Oui, parce que du coup, pour revenir à la trajectoire assez exceptionnelle de cette femme-là, avant le burn-out, avant la transition dans le pays d'Auge, c'est vraiment la trajectoire d'une femme qui part d'un certain milieu plutôt, peut-être on peut dire un peu défavorisé, en tout cas pas destinée à aller briller dans les hautes sphères de la publicité. On peut parler d'une vision... de l'époque d'un certain féminisme.
Oui, tout à fait. On parle d'un féminisme qui a été assez déployé dans les années 80. Moi, j'ai beaucoup retrouvé ma mère et mes tantes aussi dans ce personnage-là. Et je crois que j'ai mis beaucoup dans l'écriture. Ma mère était comme mes tantes, en fait. C'était le désir de ces femmes nées dans les années 50-60 de s'émanciper par le travail. Déjà, on parle d'une époque où les femmes, ces femmes-là, quand elles étaient jeunes, n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari, de recevoir des chèques. Enfin, les choses se sont mises en place vraiment au fur et à mesure, il faut le rappeler quand même. Et le travail a été vraiment la force de l'émancipation et la réussite dans le monde du travail. Si bien que le personnage de Fred, dans Rémission, c'est vrai qu'elle vient d'un milieu modeste, en Alsace. Elle va à Paris pour poursuivre ses études et elle rentre assistante dans une boîte de pub. Elle va gravir tous les échelons et elle est prête aussi à tous les sacrifices pour accéder au plus haut poste, c'est-à-dire aussi renoncer au fait d'avoir un enfant, sacrifier toute sa vie à son travail parce que pour elle, c'était aussi le fait de réussir dans des hauts postes, d'acquérir son indépendance et son autonomie, de jamais dépendre d'un homme aussi dans les rapports de la vie quotidienne, dans les histoires de Fred, dans Rémission. Elle refuse d'être invitée au restaurant, qu'on paye les factures pour elle. Elle veut vraiment être totalement libre. Et cette liberté, elle ne peut l'acquérir que par son travail, que par sa fonction dans la société, et par l'argent en fait, qu'elle va gagner. Et oui, c'est clairement un féminisme propre aux femmes de ces années-là, comme l'était ma mère, comme le sont mes tantes, et qui m'a aussi beaucoup touchée, puisque ça me rappelait beaucoup de choses de mon enfance et des femmes avec lesquelles j'avais grandi.
En tout cas, on vous laisse donc écouter cet enregistrement, sachant que donc il a été fait cet enregistrement pendant le premier confinement. Mais sachez que le spectacle existe aussi. On a pu le créer, alors un peu en huis clos. Hein, il n'a pas encore été montré au grand public, mais on aura le plaisir de pouvoir l'accueillir dans les murs du Nouveau Théâtre des Cordes la saison prochaine en 21-22. Voilà, on vous laisse, on vous souhaite une bonne écoute. Un grand merci Yann et à très bientôt.
Bonne écoute.
Je n'aime pas beaucoup parler de moi. Je suis venue ici pour disparaître. Faisons commencer l'histoire de Fred un été. Mon histoire. L'été 1980. Blondie chante Call Me pour le film American Gigolo et se classe en tête du top 50. J'ai 18 ans et je jette un dernier coup d'œil sur le grand salon d'une maison de ville alsacienne. Le salon est très ordonné. Tout est très bien rangé. Organisé autour d'un large canapé en velours vert. Je me rappelle les heures passées à jouer dans ce salon. J'y jouais seule. J'aimais fabriquer des maisons à partir de petits morceaux de carton, de petites boîtes d'emballage, de boîtes de gâteaux, de pots de yaourt. La mère me mettait de côté mon matériel de construction, en cachette, à l'abri du regard du père. Le père aimait l'ordre, la netteté, rien ne devait traîner nulle part. Encore moins des boîtes vides ou des maisons en carton construites par sa fille. Je construisais des châteaux, des manoirs et j'y mettais en scène mes poupées. Des scènes fixes, comme dans un magazine, sans histoire. Les scènes fixes pouvaient raconter des histoires, mais ce n'est pas ce qui comptait pour moi. Je cachais dans ma chambre mes constructions. Quand le père les trouvait, il les jetait à la poubelle. Je sauvais mes poupées et je recommençais tout depuis le début. Patiemment, je reconstruisais mes châteaux et mes manoirs. Puis, dans mes décors, je redisposais mes poupées comme dans les images des magazines. Je jouais seule. Je n'étais pas fille unique. J'avais deux petites sœurs, Anne et Solange. J'étais l'aînée. Mais je préférais jouer seule. J'avais mon monde à moi, dans des châteaux et des manoirs en carton, mes scènes sans histoire, et ça me suffisait. Thank you. J'ai donc 18 ans et je m'apprête à quitter la maison familiale. J'y laisse la mère qui console les deux petites sœurs. Elles cachent leur visage dans les plis de la robe de la mère. Elles me refusent un dernier au revoir. Elles boudent. Non, elles ne sont pas si petites. Non, non, on n'est pas dans une image d'Épinal. Solange, la plus petite, est blottie contre la mère. Ça, oui. Alors Cannes, Anne va monter dans sa chambre en tapant des pieds parce que le père refuse qu'elle m'accompagne avec lui jusqu'à la gare. Je veux rester avec la grande pour moi tout seul. Je veux pas la partager, dit le père qui sort de la maison en portant ma grosse valise. Mais papa, arrête Anne, contredis pas ton père, s'empresse d'ajouter la mère, toujours obéissante. Le visage d'Anne devient immédiatement écarlate. Elle me regarde furieuse et me lance « Éclate-toi bien à Paris ». Des larmes montent aux yeux d'Anne. Honteuse, elle court les cacher dans sa chambre. Ses chaussons sont restés sur le sol. Anne est partie si vite que ses chaussons sont restés là où elle se tenait. Ils n'ont pas suivi ses pieds. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Heureusement que le père a quitté la pièce. S'il avait vu ça, les chaussons qui traînent seraient bardés. La mère sourit et me fait signe de la tête de partir. C'est sa bénédiction. Le père s'impatiente, il a déjà démarré le moteur de la voiture et klaxonne. Je cours déposer un baiser sur le front de la mère. On viendra te voir le week-end prochain avec tes sœurs et ton père. Voir comment tu t'es installée, me dit la mère. Je fais glisser mes doigts dans les mèches dorées des cheveux de Soulange qui ont capturé tout le soleil de cet été 80 et je quitte en courant la maison familiale. Sur la route qui m'emmène à la gare, le père regarde droit devant lui. Il conduit avec application, silencieusement. Je n'aime pas son silence. Le silence du père à table lors des dîners. Le silence du père le dimanche devant la télé. Le silence du père dans la voiture. Tous ces silences. Ces silences, je les hais. Presque autant que ses réprimandes. Presque autant que sa voix, en rentrant le soir, qui demande si tout va bien. Cette voix qui me donnait envie de faire pipi dans ma culotte quand j'étais petite. Car si quelque chose n'allait pas bien, si quelque chose dans la maison n'était pas à sa place, si quelque chose n'était pas bien rangé, si quelque chose dépassait, la voix du père éclatait et la mère, les deux petites sœurs et moi avions droit à une belle engueulade. Il ne frappait pas, ça, non. Il ne levait jamais la main sur l'une de nous. Les fessées, c'est elle qui se chargeait de les donner, la mère, pour appliquer la loi du père, pour que ses filles filent droit, pour qu'elle ne fâche surtout pas le père. Le père ne frappait pas, lui. Il avait ses mots pour ça. Ses mots et sa grosse voix d'homme sicilien qui résonnait dans toute la maison. La voix d'un fils de militaire élevé à la dure qui reproduisait avec sa famille tout ce qu'il avait toujours haï chez son propre père. Dans la voiture qui me conduit à la gare, j'écoute une fois de plus le silence du père et je regarde ses mains qui tiennent le volant. Ses mains dont les poils blanchissent. Ses mains qui vieillissent et qui ne m'ont jamais vraiment touchée, même pas pour me frapper. Alors qu'il prend un virage, mes yeux suivent un instant la trotteuse de sa montre bracelet qui égrène les secondes dans un tic-tac inaudible, étouffé par le ronronnement du moteur diesel. Petite, quand le père s'endormait sur le canapé, devant la télévision allumée, je baissais le son de la télévision au minimum et je guettais sa respiration. J'avais peur qu'il soit mort. Quand je voyais sa poitrine se soulever, j'étais rassurée. Il était vivant. Entre ses souffles, je n'entendais plus alors que le tic-tac de la trotteuse de sa montre. Dans la voiture qui me conduit à la gare, j'allume la radio pour mettre fin à un silence de plus. Blondie chante « Call me ». Je baisse la vitre. Je prends une grande bouffée d'air. Mon regard balaye les murs trop familiers de la ville alsacienne à laquelle je sens que je n'appartiens déjà plus. Mes lèvres murmurent « Call me, my love. You can call me any day or night. Call me. » Le père grogne. Je continue de murmurer « Cover me with kisses, baby. Cover me with love. Roll me in designer sheets. I'll never get enough. Emotions come. I don't know why. » Le père grogne à nouveau. Je chante. Je me tais. Je continue à chanter silencieusement dans ma tête. Sur le quai de la gare, le père pose ma grosse valise devant la porte ouverte d'un wagon de deuxième classe. Il regarde ses pieds. « T'as pris de quoi manger ?» me demande le père en levant la tête. « Oui, maman m'a fait des sandwichs. » Impatiente de monter dans le train, je regarde le corps massif et maladroit du père extirper un portefeuille de son jean. « Tiens, au cas où, » me dit le père en me tendant un billet de 100 francs. « Merci, » je dis. Je ne sais pas si je dois l'embrasser. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou l'émotion qui fait briller les yeux du père à ce moment-là. Je n'ai pas le temps d'y réfléchir. Je ne pense qu'à partir. Je lui adresse un sourire, un baiser furtif de la main et j'empoigne ma grosse valise. Le père m'aide à monter les marches du wagon. Je cale péniblement ma valise dans un porte-bagages et je m'assieds dans le wagon de deuxième classe. Le père tape au carreau. Ses yeux sont de plus en plus brillants. Il me parle mais je ne l'entends pas. Je lui demande de répéter. Le père secoue la tête, résigné, avec un petit sourire amer. Il me fait signe de la main et s'éloigne. Alors que le train se met en marche et que je regarde le père partir, je ne sais pas encore à ce moment-là que c'était notre dernier tête-à-tête. Je repenserai des années après cet instant précis. Je fouillerai dans mes mémoires des milliers de fois pour rejouer cette scène dans mon espace mental. Tentant de multiples zooms sur les mouvements des lèvres du père pour décrypter ces mots qui se refuseront toujours à moi. Et je m'en voudrais de ne pas l'avoir pris dans mes bras sur ce quai, ce jour-là, de ne pas l'avoir embrassé, de ne pas l'avoir serré contre moi pour sentir son corps s'imprimer dans le mien. Alors que le train quitte la ville alsacienne, je ne sais pas encore tout ça. Je n'ai que 18 ans et je n'ai qu'une hâte, arriver à Paris. En cette matinée de septembre 1984, le temps est à l'orage à Paris. Sous le toit en zinc d'un immeuble haussmannien de la rue du Temple, l'air dans les 18 mètres carrés de ma chambre de bonne est irrespirable. Une montagne de vêtements trône sur mon lit. Je me suis changée une douzaine de fois avant de me décider pour une robe fuchsia et une veste blanche aux épaulettes surdimensionnées qui me donne la carrure d'un déménageur. Après avoir accroché à mes lobes d'oreilles de larges créoles en métal doré et chaussé des escarpins blancs à petits talons, j'ajuste mon maquillage qui dégouline déjà devant le miroir, suspendu au-dessus de l'évier de ma kitchenette. Relevant les manches de ma veste, je vérifie l'heure pour la sixième fois depuis un quart d'heure, sur la montre bracelet du père que je n'ai jamais enlevée depuis presque un an, depuis sa mort, qui n'est pas encore revenue me hanter. J'ai 22 ans et je n'ai pas le temps d'être hantée par la mort de qui que ce soit. J'asperge mes cheveux d'un dernier jet de laque, j'agrippe mon sac à main et je sors précipitamment de ce four qui me sert d'appartement. Sur le palier étroit, je ferme la porte à double tour et je descends 4 à 4 les marches des 6 étages de mon immeuble qui me conduisent en plein cœur du marais. En regardant le ciel, je me dis qu'il va pleuvoir. Je renonce à remonter chercher un parapluie et je cours en direction du métro. J'avais aménagé dans cette chambre de bonne de la rue du Temple, 4 ans plus tôt en arrivant à Paris. En échange de services de garde d'enfants, j'avais eu la gratuité du logement pendant 3 ans. Entre mes cours d'anglais à la fac, je m'étais occupée de 3 jeunes garçons qui vivaient dans un grand appartement au premier étage de l'immeuble. 3 ans durant, Je les avais vus grandir, je les avais attendus à la sortie de leur école, j'avais préparé leur dîner, je les avais aidés à faire leurs devoirs, je les avais lavés, bordés, mouchés, torchés, alors que leur mère, divorcée de leur père, dirigeait une usine de textile héritée de sa famille. Cette expérience avait achevé de tuer en moi tout désir d'enfant. Élever les enfants d'une autre m'avait convaincue que je n'étais pas faite pour ça. À la mort du père, quand j'avais décidé ma licence en poche de ne pas poursuivre mes études d'anglais, ne me voyant pas devenir prof et continuer d'éduquer les enfants des autres, j'avais donné mon congé à la mère des trois garçons, qui m'avait laissé la chambre de bonne en échange d'un petit loyer que je lui versais tous les mois. Je m'étais fait alors embaucher 3 nuits par semaine dans un cabaret russe du 5e arrondissement. Mon salaire de serveuse et les gros pourboires que je récoltais auprès de la jet-set parisienne qui venait y faire la fête m'avaient permis de payer mon loyer et de suivre une année de post-premier cycle en management et gestion des entreprises. Entre mes nuits au cabaret russe et mes cours à la fac, j'avais l'impression d'avoir vécu la plus belle année de ma vie. Je ne m'étais jamais sentie aussi libre. La nuit, je découvrais Paris comme j'aurais découvert un secret. Je découvrais une autre ville, tout un univers que je ne soupçonnais pas. La nuit, les gens étaient autres, ils se racontaient des vies qu'ils ne vivaient qu'en rêve. À la fin de mon service, j'aimais boire un dernier verre dans les bars de nuit du quartier latin avec mes collègues du cabaret, marcher seul le long de Notre-Dame à l'aube et traverser la Seine au premier rayon du soleil avant de retrouver pour quelques heures mon lit sous un toit en zinc. Au cours de management, j'avais rencontré Clara, une catalane pétillante aux yeux noirs et brillants, de qui j'étais devenue inséparable et avec qui je passais tout mon temps libre. À la station Charles de Gaulle Étoile, je m'extirpe d'une rame bondée de touristes et je remonte à la surface. Sur la plus belle avenue du monde, l'air est lourd et l'orage qui se fait attendre n'a pas encore fait baisser la pression. Je traverse l'avenue et je m'engouffre dans un grand immeuble sur la porte duquel est affiché le nom d'un célèbre groupe de publicité. Dans un bureau au 3e étage du célèbre groupe, je me tiens devant un homme qui parcourt rapidement mon CV. « Vous parlez anglais, donc ?» me demande l'homme en attente d'une confirmation. « Oui, 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 » je réponds nerveusement. « J'ai une licence d'anglais. »« C'est une qualité, » pointe l'homme. « Je parle italien aussi, » j'ajoute. « Mon père était italien, c'est une autre langue que je maîtrise parfaitement. »« C'est très bien, » dit l'homme. « Vous savez vous servir d'un ordinateur ?»« Non, » je dis. « Je n'ai jamais utilisé un ordinateur. » L'homme hoche la tête en levant les yeux comme s'il regardait à travers moi. « Vous êtes jolie, » dit l'homme. Je ne sais pas quoi répondre. J'ai appris qu'il faut sourire aux hommes. Je souris. « C'est aussi une qualité, » poursuit l'homme. « Mais il faudra changer de look, hein ?» Ici, la discrétion et l'élégance sont de rigueur, surtout à ce poste. Tailleur gris ou beige, chemisier blanc impeccable, jupe aux genoux, peu de maquillage et pas de bijoux en toque, c'est compris. Je hoche la tête comme une petite fille prise en faute. « Vous avez une jolie montre, » nuance l'homme sans y croire. « Merci, » je dis. « Mais elle n'est pas très féminine, » tranche l'homme comme un reproche. « Je vois que vous avez fait une année de post-premier cycle management et gestion des entreprises. Vous ne souhaitez pas poursuivre vos études ?»« Si, si, mais quoi ?»« Mon père est décédé il y a un an. Dans ma famille, la situation est devenue difficile. J'ai besoin de travailler à plein temps pour aider ma mère. J'ai 2 petites sœurs et... » Je ne sais pas comment terminer ma phrase. Je tente sans y parvenir d'étouffer l'émotion qui me submerge. Des larmes montent aux yeux. J'ai honte. Je rougis. « Je vois, » dit l'homme, « mais à ce stade, je n'ai pas autre chose à vous proposer qu'un poste d'assistante. »« Ce sera parfait, » je dis. « Vous pourriez commencer dès demain ?» demande l'homme. « Oui, oui, je suis libre, » je réponds soulagée. « Pour l'ordinateur, vous commencerez par une formation d'une semaine pour apprendre à vous en servir. Je vous amène faire le tour des bureaux et vous montrerai où travaillent les autres filles. » Je suis l'homme dans un dédale de bureau, où d'épaisses volutes de fumée de cigarettes forment un 2e faux plafond, et où des hommes vont et viennent, portant le costume comme ils porteraient un uniforme. « Il n'y a que l'armée et les chercheurs qui disposent d'un tel matériel, » dit l'homme fièrement, en désignant les ordinateurs dernier cri qui encombrent les bureaux. Et c'est bel et bien une armée que je vois à l'œuvre, un essaim de publicitaires survoltés, qui s'affairent derrière des rangées d'ordinateurs. Je connaîtrais ces soldats du capitalisme dans les moindres détails, épiant leurs gestes, apprenant leur langue, détectant leurs mensonges, anticipant leurs demandes, apprivoisant leur morgue, encaissant leur condescendance, calmant leur impatience comme j'avais su calmer 3 ans durant celle des 3 garçons de la rue du Temple, et souriant toujours en guise de réponse,
puisque j'avais appris qu'il fallait sourire aux hommes, ne jamais les contrarier, hein ?
Le lendemain, quand je viendrai prendre mon poste d'assistante au sein du célèbre groupe de publicité, l'homme me renverra chez moi me changer. Il jugera ma jupe trop courte. Me sentant humiliée, je ne rentrerai pas chez moi. J'irai dépenser tout mon argent dans une boutique de prêt-à-porter du 8e arrondissement pour rejoindre une heure plus tard l'armée des publicitaires dans un uniforme flambant neuf. Mais pour le moment, alors que je suis l'homme des yeux, je ne sais pas encore tout cela. Mon regard s'arrête sur l'un des soldats du capitalisme, comme hypnotisé. Ce soldat dénote. Il ne porte pas de cravate. Le col de sa chemise ouverte laisse voir sur une peau dorée des poils châtains. Les manches de sa veste sont retroussées et il n'a pas les cheveux courts et plaqués comme les autres. Ses cheveux blonds mi-longs et ébouriffés sont comme la crinière d'un lion et il rit très fort au milieu d'un groupe d'autres soldats du capitalisme au teint gris comme leur costume qui le regardent avec admiration. « Vous me suivez ?» me demande l'homme sèchement, me tirant de ma contemplation. « Oui, oui, » je dis en m'excusant, conciliante et poursuivant la visite. Le soir même, à la terrasse d'un café de la rue des Archives, je suis assise en face de Clara. Le bitume est détrempé par l'orage qui a grondé tout l'après-midi. L'air est enfin respirable. Nous buvons à mon nouveau job, alors qu'à l'intérieur, des enceintes diffusent la voix de Cyndi Lauper chantant « Girls just want to have fun ». Et c'est bien notre intention ce soir. Je sens que j'ouvre un nouveau chapitre de ma vie et je veux que cette soirée soit digne d'un enterrement de vie de jeune fille. Je regarde Clara, travestie en homme, recoller sa fausse moustache alors qu'elle finit de boire son cocktail. Les yeux noirs et brillants de Clara paraissent encore plus intenses. Sous une casquette et sa fausse moustache, elle porte une veste en jean trop large sur une chemise de trappeur, un pantalon en toile et des baskets d'homme. Je ne sais pas si c'est la moustache ou de la voir habillée en homme ou l'alcool qui me monte à la tête, mais je suis saisie d'une envie irrépressible de l'embrasser, de me fondre en elle, de la goûter. Clara me dévisage. « Ça marchera jamais, » elle dit. « Faut qu'on ait l'air de vrai mec si on veut entrer. » « On voit trop ton visage. » Clara enlève sa casquette et la met sur ma tête. Je sens ses doigts glisser sur mes joues. Je frissonne. Elle rit. « Voilà, t'as l'air d'un mec comme ça. T'es folle !»« Allez, beau gosse, je vais payer et on y va, » dit Clara après avoir englouti la dernière gorgée de son cocktail. « Non, non, déconne pas, c'est moi qui t'invite. Tu m'inviteras là-bas. » Quelques rues plus loin, devant l'entrée d'un cruising barguet où se pressent quelques hommes, Clara et moi faisons la queue. Le videur salue les clients et les laisse entrer un à un. Je baisse la visière de ma casquette sur le haut de mon visage au moment où le videur nous salue. « Vous pouvez pas entrer, » dit le videur à Clara, sans faire attention à moi. « C'est réservé aux hommes. » Je m'arrête net. Clara plante ses yeux noirs et brillants dans ceux du videur, tout en lissant des doigts sa fausse moustache, et me pousse discrètement du pied pour m'encourager à entrer seule. « Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, » dit Clara en souriant au videur. « Je suis désolée, mademoiselle, » lui répond le videur, amusé, tandis que j'entre dans le bar. Passé la porte, je me retrouve dans un escalier étroit, au plafond bas. Je descends lentement ce boyau de pierre qui me conduit à une petite piste de danse que longe un bar, une ancienne cave où gesticule, dans le brouillard épais de la fumée des cigarettes, des hommes torse nus sous des projecteurs à la lumière rouge étouffée. J'incline encore davantage la visière de ma casquette sur mon visage et je me fraye un chemin entre les corps en sueur. Une main se pose sur mes fesses. Je l'esquive d'un mouvement du bassin et je m'extirpe de la piste de danse. Je me retrouve alors face à un nouvel escalier que je décide de descendre. Un nouveau boyau de pierre me conduit vers un deuxième sous-sol. Une enfilade de petites alcôves, à peine éclairées. Certaines sont vides. D'autres, occupés par des hommes seuls, attendent sans doute un partenaire. D'autres, encore aux portes fermées, laissent échapper des gémissements rauques. Je n'ose pas regarder. Je baisse les yeux, m'attendant à tout moment à ce qu'une main se pose sur mon épaule et qu'une voix me demande de sortir. Au bout du couloir d'alcôve, je m'enfonce encore plus profondément dans l'obscurité d'une salle au plafond bas, de la taille de ma chambre de bonne. Dans l'odeur âcre de sueur et de foutre,
Je devine des corps d'hommes s'imbriquer les uns dans les autres, au rythme de râles haletants, comme s'ils exécutaient un rituel tribal, ancestral et secret. Une main se pose sur mon épaule. Je sursaute. Je quitte ce rituel qui n'est pas le mien et je remonte au premier sous-sol. Là, accoudé au bar qui longe la piste, derrière les corps luisants de transpiration, je le reconnais, le soldat du capitalisme qui dénotait, à la crinière blonde et ébouriffée, aperçu ce matin même dans l'un des bureaux du célèbre groupe de publicité. Je le regarde, interdite. Mon cœur bat trop fort. Je pense à Clara qui doit m'attendre à la surface. Mon regard cherche la sortie. Le soldat du capitalisme me regarde à son tour. Il sourit comme s'il avait deviné que je n'avais rien à faire ici. Sans réfléchir, je lui rends son sourire. Mais pas le sourire que je sais devoir adresser aux hommes. C'est un tout autre sourire qui envahit mon visage. Un sourire que je ne connais pas. Je n'ai jamais souri comme ça. Le soldat du capitalisme doit le savoir. Il doit savoir que mon sourire n'a rien d'ordinaire. Parce qu'il passe entre les corps en sueur et s'avance vers moi. Je suis pétrifiée. Il approche. J'ai envie de fuir. Il se tient devant moi. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» me demande le soldat du capitalisme, avec un accent allemand à couper au couteau. Je ne réponds pas. « T'as rien à faire ici, tu cherches quoi, là ?» poursuit-il en souriant de toutes ses dents. Des dents blanches dans lesquelles j'ai envie de mordre. « Ben, dis quelque chose. » Je fais glisser mes doigts dans la crinière blonde et ébouriffée de l'homme qui m'a fait sourire, comme je n'aurais jamais cru. Je colle mon corps au sien et je l'embrasse à pleine bouche en unique réponse. Un baiser qui n'en finit pas. Un baiser qui semble durer une vie. Un baiser en marche des corps en sueur dont plus de la moitié mourront dans les 10 prochaines années. Les 10 prochaines années que je ne verrai pas passer dans les bras du soldat du capitalisme à l'accent allemand. « Je m'appelle Thomas », me dit-il à l'oreille. « Comment ?» je lui demande. « Thomas, moi c'est Fred », je dis. Automne 1995. Sur la plus belle avenue du monde, le soleil fait briller les feuilles des arbres d'un vert où percent des reflets jaunes. Je déjeune avec Clara dans une brasserie trop bruyante, à 2 pas du célèbre groupe de publicité. Je la regarde manger son dessert avec gourmandise. Je bois un café. Les années ne semblent avoir aucune prise sur elle. Elle rayonne. Et là, comme sortie de nulle part, elle m'annonce la nouvelle. Je suis enceinte. J'ai l'impression de ne pas avoir bien compris. Des clients américains rient trop fort à la table voisine. Je la fais répéter. Quoi ? Tu dis quoi ? Je suis enceinte, elle répète en souriant. Je voulais attendre avant de te le dire, puis je me suis dit, sois pas conne, c'est le moment ou jamais. On se voit quasiment plus ces derniers temps, t'es tellement occupée. J'avais bien entendu. Mon visage trahit une totale absence de réaction. « Ben, t'es pas contente pour moi ?» me demande Clara en engloutissant la dernière bouchée de son gâteau. Je ne sais pas quoi répondre. Je devrais sourire, lui dire que je suis heureuse pour elle, commander du champagne. « Mais tu vas faire comment avec le boulot ?» Je me suis dit que j'allais arrêter de bosser un moment, au moins les premières années. Paul gagne suffisamment bien sa vie. Et tu dois arrêter de bosser et faire la boniche à la maison ? Une colère irrépressible monte en moi. Je ne sais pas pourquoi. Clara est blessée, elle regarde son assiette vide. C'est pour ça que j'hésitais à te le dire, Fred. Tout le monde n'a pas que le boulot en tête. Ah, parce que moi, j'ai que le boulot en tête. Tu parles plus que de ça. J'encaisse. On ne peut pas arrêter l'horloge biologique, Fred. Je vais avoir 35 ans, elle ajoute comme pour s'excuser. J'avais plus envie d'attendre. Puis je sais même pas pourquoi je me justifie. Tu verras, toi aussi, t'y penseras avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard de quoi ? Je lui demande. Je crois pas que l'espèce humaine soit en voie d'extinction et qu'elle ait besoin que je lui fournisse un nouveau spécimen. Clara rit jaune. Quand on aura marre de ton boulot, t'y penseras toi aussi, tu verras. Thomas, tu ne veux pas d'enfant ? Pour échapper à cette conversation, je lance au serveur qui passe derrière nous l'addition, s'il vous plaît. Clara cherche son sac à main sur la banquette. Laisse, c'est pour moi, je lui dis. Merci, elle dit. Puis j'ajoute sans y croire et forçant un sourire. Si t'es heureuse, je suis contente pour toi. En m'envolant pour Lisbonne, 3 heures plus tard, je repenserai à ce déjeuner. Je m'en voudrais de ne pas avoir été une meilleure amie. Je reverrai Clara à la maternité quelques mois plus tard pour embrasser le nouveau-né et le couvrir de cadeaux. Puis je répondrai aux invitations de Clara de plus en plus rarement. Les conversations tournant exclusivement autour de l'enfant m'épuiseront. Je ne reconnaîtrai plus mon amie et je m'en lasserai. Dans un monde dirigé par des hommes, je ne croyais pas au féminisme qui prônait qu'une femme pouvait à la fois faire carrière et être une bonne mère. Je savais ce que c'était que d'élever les enfants d'une autre, et je ne voulais pas imposer cette tâche à qui que ce soit. Je savais que si j'avais un enfant, je ne le verrais quasiment jamais et je ne considérais pas ça comme une éducation. Je m'y refusais. Mon corps ne pourrait jamais être celui d'une mère. Employée depuis 11 ans du célèbre groupe de publicité, j'y avais fait mon chemin. Mon talent pour les langues m'avait permis de me distinguer rapidement. D'assistante, j'étais passée chef de publicité, puis directrice de clientèle, et je partais en mission à l'étranger, dans les antennes du célèbre groupe qui étendait ses tentacules sur le reste du globe. Au milieu des années 80, à l'heure de la mondialisation et du rachat des marques nationales et régionales par les grands groupes, dans un milieu alors exclusivement masculin, les directeurs artistiques avaient eu besoin de jolies jeunes femmes souriantes à leur côté pour vendre leurs campagnes et faire signer les gros clients. Je m'étais trouvée au bon endroit, au bon moment. Et j'avais travaillé mon sourire autant que mes arguments de vente. Un sourire qui rapportait des contrats à plusieurs millions de francs sur lesquels je touchais de belles commissions. Je m'étais formée sur le tas. J'avais suivi toutes les formations de marketing possibles pour apprendre à embobiner le client. Langage corporel, PNL, technique de négociation. J'avais appris à maîtriser les règles du jeu. Et j'y jouais à merveille. Je vendais et je vendais gros, toujours plus gros. Au contact de Thomas, le soldat du capitalisme à l'accent allemand que j'avais embrassé dans un cruising bar 11 ans plus tôt, j'avais appris les rudiments de ce monde qui excellait dans l'art de vendre au reste du monde ce dont il n'avait pas besoin. Thomas travaillait alors comme créatif pour le célèbre groupe de publicité. En réel prodige, il y évoluait librement, en dehors des règles, avant de rejoindre la concurrence 2 ans plus tard pour un salaire plus juteux. Le départ de Thomas avait coïncidé avec mon ascension au sein du groupe de publicité. Je n'avais pas été pistonnée. Je m'étais faite toute seule et c'était ma fierté. Je haïssais les garden parties de la vallée de Chevreuse auxquelles me traînait Thomas les dimanches après-midi. Mais j'avais su en simuler hypocritement les codes et y développer mon réseau. J'y avais vu évoluer dans toute leur arrogance les élites qui se reproduisent, au visage et au corps privés de liberté, de vie. Les visages et les corps empruntés des filles et fils d'eux qui avaient reçu en héritage les clés de ce monde et que je méprisais secrètement. Leurs plaisanteries fades et leur goût pour des divertissements abscons qui ne remettaient nullement en cause leur statut d'éternel privilégié m'insupportaient. Dans un studio photo de Lisbonne, je vérifie avec l'agent d'une supermodèle sur le déclin des épreuves en extérieur avant de les envoyer en post-production. Sur les photos, la supermodèle, qui avait connu son heure de gloire au début des années 90 avant d'être détrônée par les modèles plus jeunes et filiformes de l'avant-garde grunge, pose avec une moue boudeuse devant un mur coloré du Bairro Alto à côté de sacs à main d'une marque de grand luxe. Des sacs qui finiront dans les mains de vieilles clientes fortunées, je me dis. Les photos sont pas mal, je me dis aussi. En tout cas, c'est dans l'esprit de la campagne. Sobre, mais élégant. Une touche d'ethnie qui donne un côté authentique, non ? Me dit en anglais l'agent du supermodèle sur le déclin. Il barre nerveusement plusieurs photos sur lesquelles sa cliente n'est pas à son avantage. Je hoche la tête en souriant. J'ai hâte d'en finir. Il me tend sa sélection. « Je devrais valider aussi les retouches », il ajoute. « Le client aussi », je dis, en prenant les photos. Je jette un dernier coup d'œil aux épreuves avant de les glisser dans une enveloppe. Je me demande comment l'image d'une femme, si belle soit-elle, peut se vendre aussi cher. Et comment j'arrive à la revendre encore plus cher. Ça n'a pas de sens, je me dis. Ce n'est pas moi qui décide les règles, je me dis aussi. Je ne suis qu'un maillon. Le soir, en quittant l'antenne du célèbre groupe de publicité à pas d'heure, je traverse le Bairro Alto pour rejoindre mon hôtel. J'ai besoin de marcher. J'arpente épuisé ce quartier touristique de Lisbonne que je connais déjà. Thomas me manque. Il est à New York sur une campagne depuis un mois. J'ai hâte qu'il rentre, qu'on passe du temps ensemble, qu'il me fasse rire. À l'angle d'une rue, je crois reconnaître l'un des murs du shooting où la supermodèle sur le déclin a posé ce matin même. Un vieil homme édenté a pris sa place et chante un fado, adossé au mur. Un béret posé devant lui attend la petite monnaie des touristes. Je m'arrête pour l'écouter un instant. Devant le mur, je l'imagine chanter à côté de la supermodèle sur le déclin. Je repasse les photos dans ma tête. Leur désuétude ethnique mais authentique à côté du vieil homme me frappe violemment. L'argent et l'énergie investis pour mener cette campagne, son coût exorbitant, les présentations devant les pontes comme des examens de passage sans cesse renouvelés, les négociations à n'en plus finir avec le client, les sourires, les bras de fer, les objectifs à remplir, la guerre ouverte avec la concurrence, faire du chiffre, vendre, vendre, vendre toujours plus pour que le client lui aussi vende toujours plus, le choix du modèle, le casting, la validation du casting par le client et la post-production à venir et maintes validations à décrocher encore avant que les sacs à main ne soient présentés dans les boutiques de luxe des capitales du monde sous l'image de ce mur et la moue boudeuse d'une fille qui avait déclaré à la presse quelques années plus tôt ne pas sortir de son lit à moins de 10 000 dollars par jour. Quelle conne ! Et les vieilles bourgeoises qui achèteront ces sacs comme elles achèteraient la beauté de la supermodèle pour l'accrocher à leur épaule. Comme si elles s'emparaient, comme si elles se l'appropriaient, comme une nouvelle jeunesse, comme pour repousser leur propre mort, comme un signe extérieur de leur appartenance à l'éternel club des privilégiés. Les contrefaçons que les jeunes filles pourront s'offrir à bas prix sur un marché de province pour se donner à leur tour l'illusion d'appartenir à un monde qui n'est pas le leur. Tout ça me laisse un goût plus qu'amer. Tu deviens aussi cynique que cette époque, je me dis. Tu ne devrais pas penser à tout ça, je me dis aussi. Sinon tu arrêterais tout. Tu n'es qu'un maillon. Ce n'est pas toi qui dictes les règles du jeu. Tu ne fais qu'y jouer et tu y joues à merveille. Je sors de mon sac à main quelques pièces de monnaie que je dépose dans le béret du vieux chanteur édenté. Ça ne me rachète pas, mais ça a le mérite de soulager ma conscience quelques secondes. Sur un banc, quelques rues plus haut, je m'assieds et je repense à Clara. Mon corps se tend. Ces phrases reviennent dans ma tête. « Tu parles plus que de boulot. C'est ça qu'elle a dit ?» Je me demande à moi-même. La conversation continue dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sale habitude de revivre des conversations et de les poursuivre seule dans ma tête, en boucle, répondant alors ce que je n'avais pas osé dire sur le moment, le corps tendu comme si la conversation avait vraiment lieu. Dans ma tête, je dis à Clara « N'arrête pas de travailler, ne te soumets pas. » Si tu arrêtes de travailler même pour un gosse, tu vas te mettre au service de ton mec. Si c'est lui qui ramène le pognon, sans le vouloir, tu vas te mettre à son service. Il t'achètera. C'est ce que font les hommes. Ils nous achètent Et en retour, ils attendent qu'on les serve et qu'on écarte les jambes. Une fois dépendante financièrement, tu seras prise en otage. Tu le sais, et tu connais la suite. No sex, no cash. Avec Thomas, j'avais tout fait pour garder mon indépendance. J'avais refusé de vivre avec lui avant que mon salaire ne me l'autorise. J'avais repoussé ses demandes en mariage. Je refusais d'être invitée au restaurant. Je partageais à part égale chaque facture. J'y avais mis un point d'honneur. Thomas s'en amusait, mais me respectait infiniment pour ça. Pas de compte commun, pas de compte à rendre, je lui disais. Thomas aimait aussi bien les hommes que les femmes. Je le laissais libre de ses aventures. Je ne cherchais pas à le tromper avec d'autres hommes, mais j'attendais qu'il me laisse entièrement libre en retour. Pas de compte à rendre, pas d'obligation, pas de soumission, pas de mensonge. Je me mets à chialer comme une conne seule, assise sur le banc du Bairro Alto. Je repense aux filles de ma boîte mises au placard après une grossesse et qui n'ont jamais retrouvé leur poste. Non. Non, pourquoi tu penses à ça? Tu ne veux pas d'enfant. Tu ne veux pas d'enfant, je me répète. Puis c'est pas pour ça que tu chiales. Arrête, t'es pathétique, ma pauvre fille. J'ai pas eu mes règles depuis 3 mois. Je suis enceinte. Je le sais. J'ai pas pu le dire à Clara. C'est pour ça que j'étais en colère. Je regarde ma montre. 2:30. Il ne me reste plus que quelques heures de sommeil. Je dois être à l'aéroport dans moins de 5 heures. La présentation d'une nouvelle campagne au siège du célèbre groupe m'attend en fin de matinée. Je n'ai pas envie de rentrer. Je voudrais que le temps s'arrête. En continuant de chialer comme une conne, je fixe ma montre. Une montre sans trotteuse, féminine et hors de prix, comme tout ce que je porte désormais, et sur laquelle le temps fuit sans bruit. Un signe d'appartenance au club des privilégiés, sans valeur affective. C'est la première leçon qu'ils m'ont apprise. L'habit fait le moine dans un monde où l'on est jugé au premier coup d'œil sur la marque d'une paire de chaussures, d'un foulard, d'un tailleur, d'un bijou ou d'une montre. Et même quand il ne s'agit que d'un jean, d'une paire de tennis et d'un t-shirt à une garden party. Quelqu'un s'assoit sur le banc à côté de moi et me pose une question en portugais. Je relève la tête. On dirait une apparition. Sur le ciel étoilé, son visage se découpe dans la lumière à contre-jour du lampadaire qui nous éclaire. Mal rasé, la vingtaine a tout cassé. De grandes boucles brunes retombent en bataille sur ses sourcils, au-dessus d'un regard incandescent d'innocence. Il a l'air tellement vivant. Il sort d'où? On dirait qu'il n'est pas réel. Je lui demande de répéter sa question en anglais. « Tu vas bien ?» il me demande dans un anglais approximatif. « Oui, oui, » je réponds. « Tu pleures ?» il dit, en mimant avec ses longs doigts des larmes coulées sur son visage. Ses mains paraissent sculptées. « C'est rien, » je lui dis. Je le regarde. « Comment tu t'appelles ?»«
Je m'appelle Fred. »
« Nuno, » il dit, en se désignant lui-même de ses longs doigts si vivants. Sous la lumière du réverbère, ses mouvements se détachent lentement dans la nuit. L'inclinaison de sa tête, son regard, ses mains, son sourire. « Tu t'appelles Nuno ?» je dis. « C'est joli !» Je le regarde comme hypnotisé. Son sourire magnifique y brille encore davantage dans la nuit. « Pourquoi tu pleures, Fred ?»
Pour rien.
Si c'est pour rien, tu ne devrais pas pleurer, il dit. Je souris en hochant la tête. Je sens son corps prêt à se lever. Dis, Nuno, tu voudrais pas marcher un peu avec moi? Qu'est-ce qui me prend? C'est un gamin. Son sourire magnifique s'élargit. Il me demande de répéter, il n'a pas compris. Je suis soulagée. Je le regarde encore sans répéter ma question. Je prends sa main dans la mienne et je me lève avant qu'il ne le fasse. « Viens, » je lui dis. « Où ?» Je ne réponds pas. Je commence à marcher, serrant dans ma main ses longs doigts si vivants. Sur les hauteurs du Bairro Alto, du haut de ses 20 ans, Nuno me suit docilement.
Dans ma chambre d'hôtel, éclairée par la lumière de la télévision, Nuno est endormi sur le lit, à côté de moi. Sous ses boucles brunes, son visage sur l'oreiller paraît encore plus irréel d'innocence, de vie. Ma main glisse sur les draps et s'empare de la télécommande. Je zappe. Sur une chaîne de clips en continu, Portichette chante Glory Box. Quelques jours plus tard, à Paris, j'avorterai et je trouverai un poste à La Défense, dans un groupe concurrent, spécialisé dans la grande distribution. Un déclassement, me diront les employeurs du célèbre groupe de publicité, quand je leur donnerai ma démission. Vous reviendrez rapidement au luxe, vous verrez. Je n'y reviendrai jamais. Paris, août 2007. Il fait déjà une chaleur atroce. Je suis allongée dans mon lit depuis le début de l'été. La douleur est insupportable et me ronge tout le corps. Je cherche un comprimé sur ma table de nuit. La plaquette est vide. Je renverse le verre d'eau. Putain, fais chier. L'idée d'aller chercher une nouvelle boîte d'antalgique dans la cuisine m'est encore plus insupportable que la douleur. Je serre les dents et j'essaie de me rendormir. Tout avait commencé au début de l'année, après les fêtes de Noël. Des douleurs sourdes dans les cervicales me prenaient, le soir, au bureau, toujours précédées d'un état d'angoisse, de vide. Et là, je n'arrivais plus à lire. Sur l'écran de mon ordinateur, les lettres, les chiffres dansaient sous mes yeux. C'était flippant. C'était comme si je ne savais plus lire. J'avais tout essayé pour résoudre le problème. Ostéo, acupuncture, réflexologie, rien n'y faisait. J'avais consulté un neurologue, puis deux, puis trois. J'avais passé autant d'IRM, de scanners. Je n'avais rien, ils ne trouvaient rien. Ils me prenaient pour une hypochondriaque. Les cons. Moi qui n'étais jamais malade. J'avais renoncé à toute vie sociale. Je me renfermais sur moi-même. Quand je rentrais du travail, le soir, en marchant dans les rues, j'avais des envies hurlantes de me jeter sous une voiture. J'imaginais le choc au ralenti, mon crâne heurté le capot, le bruit sourd des eaux, mon corps projeté dans les airs et se briser en atterrissant sur le bitume comme une libération. Quelques mois après, en mai, la situation n'avait pas changé. Et Thomas me quittait. Pas à cause de ça. Non, ça n'allait plus entre nous depuis des années déjà. Je ne sais même plus à quand remontait la dernière fois que l'on avait baisé ensemble. L'inertie de notre couple ne tenait plus. L'amour avait foutu le camp depuis trop longtemps. Nous ne savions ni l'un ni l'autre comment nous dire au revoir. Il avait rencontré une fille 2 fois plus jeune que moi. Le salaud. Et à 50 ans, il se sentait enfin prêt à fonder une famille. Quelle blague! Son départ m'avait soulagée sur le moment, mais avait laissé un vide irremplaçable. J'avais pleuré toute la nuit quand 2 semaines plus tard, nous avions décidé d'un commun accord de mettre notre appartement en vente. Début juin, mon état avait brusquement empiré et j'avais fait suspendre les visites de l'appartement, le temps que je me rétablisse. Il me devait bien ça. Ça s'est produit un matin de juin. Je voulais me lever pour aller travailler. Et là, impossible, impossible de me lever, de bouger mes jambes. Mon dos me faisait atrocement souffrir et mes jambes ne répondaient plus. J'étais morte de peur. Médecin, ambulance, urgence, le diagnostic tombe. Une psychologue de l'hôpital s'en charge. Burnout, votre corps vous dit stop, vous devez vous reposer, Vous n'avez pas d'autre choix. 8 heures du matin. Le bruit des ouvriers qui refont la façade de mon immeuble me réveille. Ils travaillent sur un échafaudage devant les fenêtres de ma chambre. Ils ont allumé une radio qui diffuse dans un crin-crin insupportable « Dance » de Justice. La musique envahit violemment ma chambre. Je me lève et je me traîne comme une tortue jusqu'à une fenêtre. J'ouvre les volets. Je les regarde. Je suis pliée en deux par la douleur. « Éteignez ça », je leur dis. « Quoi ?» ils me disent. « La musique est trop forte, ils ne m'entendent pas. » Je hurle. « Éteignez votre putain de radio de merde, c'est compris. »« Vous énervez pas, madame, » répond l'un d'eux en rigolant. Je claque les volets, la fenêtre, je tire les rideaux, la musique s'arrête. Il fait trop chaud, j'étouffe, je me traîne jusqu'à la cuisine, je trouve une boîte dentalgique, je prends deux cachets. Je bois de l'eau au robinet pour les avaler et je regagne péniblement mon lit en m'accrochant au meuble. J'entends encore les ouvriers dehors. J'ai envie de les tuer. Enfermé dans mon corps au milieu de l'été, enfermé dans mon corps comme dans une prison. Le bruit des ponceuses sur la façade de l'immeuble me transperce les dents. Drame de bourgeoise, je me dis, en fixant le plafond et en attendant que les antalgiques fassent leur effet. J'essaie de respirer profondément. Ma tête bourdonne. En fixant le plafond, j'essaie de comprendre quand tout ça a commencé. 12 ans auparavant, j'avais quitté le luxe pour la grande distribution, pensant la jouer cool. Pensant que ma conscience me laisserait tranquille, une fois que je ne serais plus obligée de vendre les images à la bourgeoisie. Mais je m'étais leurrée. J'avais retrouvé les mêmes règles, le même monde. En fixant le plafond, je fais défiler dans ma tête toutes les campagnes que j'ai vendues comme une liste de courses. Café, thé, confiture, céréales, pâte à tartiner, biscuits, petits pots, couches, eau minérale, steak haché, sauce tomate, pizza, soupe en brique, farine, sucre vanillé, serviette hygiénique, gel WC, papier cul, éponge, eau de javel, déodorant, lessive, dentifrice, brosse à dents, fromage, yaourt, lait, soda, jouets pour enfants, liquide vaisselle, chocolat, fournitures scolaires, meubles, cuisine, prêt-à-porter, télévision, téléphone portable, jeux vidéo. Et toujours les mêmes stratagèmes. Études de marché, réunion avec le client, sourire, présentation de campagne, sourire, négociation, sourire, signature des contrats, sourire, casting, présentation de casting, sourire, tournage, shooting, post-production, livraison de campagne, sourire. Et vendre. Vendre toujours plus. Bilan de fin d'année, objectif, chiffre, sourire, vendre plus, sourire plus, atteindre ses objectifs, jusqu'au jour où t'y arrives plus. Ils le sentent, ils le savent. Passé la quarantaine, tes boss te font comprendre que si tu n'arrives plus à remplir tes objectifs de vente, c'est parce que ta chair n'est plus assez fraîche pour faire signer le client et que ton sourire a perdu de son éclat. Ça, ils ne te le disent pas. Ils te mutent. Tu passes discrètement sur le derrière de la scène, la formation. Tu renvoies à ton tour se rhabiller chez elle des filles aux jupes trop courtes et au décolleté plongeant. Pas pour les faire chier, non ? Mais pour les protéger des clients qui pensent qu'avec l'argent qu'ils déboursent pour leur campagne de pub, ils peuvent aussi sauter la commerciale qui la vend. Tu le sais, tu en as vu des tas des clients comme ça. Tu as lutté des années pour les remettre poliment à leur place avec une blague à droite. Mais tout le monde n'a pas le sens de l'humour. Tu sais que le harcèlement est monnaie courante et qu'il brise des vies. Rentre chez toi te changer, tu dis à ton tour. C'est aussi l'image de la boîte que tu vends avec ta façon de te présenter aux clients. Et s'ils te trouvent provocante, tu leur renvoies à la face la vérité qu'ils connaissent déjà, que tu es là pour les séduire, que c'est toi aussi qu'ils achètent. Et tu vois tous les juniors, les jeunes diplômés, prêts à tout pour faire du chiffre, pour se hisser dans la hiérarchie le plus vite possible. Ils ont une énergie et un appétit que tu as perdu, et ils sont vraiment prêts à tous les coups. C'est une guerre ouverte. Ils sont à la pointe des tendances au fait des nouveaux espaces de communication à conquérir, Internet, réseaux sociaux. un nouveau terrain de jeu s'offre à eux. C'est du jamais vu, ils disent. On va pouvoir mieux cibler les pubs pour augmenter les ventes. Fini de taper dans le tas, on personnalise. On va bientôt pouvoir proposer le produit au client en le faisant apparaître directement sur son écran, au moment même où il en a besoin, comme si on ne parlait qu'à lui, comme si on était dans sa tête. On va même pouvoir bientôt le géolocaliser, connaître ses habitudes avec certitude, savoir devant quel magasin il passe et tout faire pour qu'il y entre. Et là, bim, il achète. On le tient. Fini de suggérer, on va plus loin. On est dans sa tête, on crée le désir, on crée le besoin, on le tient. Faut revoir tous nos modèles de communication. On le tient. Tu vois le capitalisme tout digéré jusqu'au consommateur lui-même. Tracker, data center, cookie, pop-up. T'y comprends rien. T'es largué. Après la marchandise comme spectacle, c'est l'acte de consommation lui-même qui devient spectacle, qui est vénéré. Tu penses à ces images du premier jour des soldes, diffusées sur les écrans du monde entier, où des vigiles ouvrent les portes des grands magasins de distribution à des clients qui attendent depuis des heures pour être les premiers servis. Les portes du magasin s'ouvrent enfin et tu vois une marée humaine de consommateurs se ruer, courir dans les rayons, se piétiner, s'arracher des mains les produits, hurler, se frapper, prêts à s'entretuer. Tout ça pour un bout de tissu, une console de jeu, un écran plat et même un pot de pâte à tartiner. Le monde devient fou. Tu ne le suis plus, t'y arrives plus, t'es largué. Ils le sentent, ils le savent. Ils ne te le disent pas, mais ils te mutent à nouveau. Tu passes aux ressources humaines, le recrutement. Drôle ce mot, ressources humaines. Les êtres humains sont des ressources, des produits, des placements, des investissements. Tu l'apprends. Car ça, ils te le disent, ce n'est pas légal, mais ils te le disent quand même. Pas cette couleur de peau, pas ce profil, pas d'obèse, pas de tatouage, pas de piercing. Pas de dreadlocks, pas de mère dont les enfants pourraient tomber malades, pas cette adresse, il habite trop loin et à cause des grèves, il pourrait arriver en retard, pas cette femme, elle projette d'avoir des enfants et on ne veut pas de congé maternité sur le dos, pas de vieux, pas de moche, pas ce nom-là, surtout pas de syndicaliste. Pour le reste, les femmes de ménage, la maintenance, on se fait pas chier, on sous-traite. Et tu fais tes courses dans les CV comme au supermarché de la grande distribution. Et en entretien, tu choisis les futurs employés les plus performants selon les critères de ta boîte, pour que ta boîte soit la plus performante possible et qu'elle vende toujours plus et que ses clients vendent eux aussi toujours plus. Pour les faire chier, tu embauches comme assistante Leila, une jeune musulmane qui vit à Saint-Denis. C'est ton assistante, c'est toi qui choisis. Ils n'ont pas leur mot à dire. Ils jasent à la machine à café. Il paraît que Leila se change en cachette dans le RER pour venir travailler. Tu demandes à Leila si c'est vrai. Elle répond que oui. Qu'elle vit encore chez ses parents, qu'elle vient d'une famille traditionnelle et qu'elle sort de chez elle voilée. Le soir, quand elle finit trop tard, à cause de toi, tu culpabilises. Tu la ramènes en voiture à Saint-Denis avant de rejoindre les beaux quartiers parisiens. Leila se change pendant le trajet sur ton siège passager. Ça ne te rachète pas. Dans ta boîte, tu vois les autres. Celles et ceux de ton âge qui ont vieilli aussi et qui n'ont pas réussi à se trouver une planque de cadre comme la tienne et qui sont mis au placard parce que les licenciés coûteraient trop cher à cause de leur ancienneté. Tu les vois se faire ranger dans des bureaux à exécuter des tâches ingrates qu'on leur demande de recommencer sans cesse jusqu'à ce qu'ils se lassent, jusqu'à ce qu'ils se découragent, jusqu'à ce qu'ils ne se respectent plus, jusqu'à ce qu'ils perdent toute estime d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils partent d'eux-mêmes. Tu vois tout ça, tu l'encaisses, tu le digères, mais la vérité, c'est que tu y participes. Que tu en es une actrice. Ce n'est pas toi qui dictes les règles du jeu, ok. Mais tu les appliques. Tu es devenu toi aussi le bon petit soldat du capitalisme et ton corps te lâche parce que ta conscience ne te laisse pas tranquille. Parce que ce monde n'a jamais été le tien. Parce que tu n'y crois plus depuis des années déjà. Parce qu'il te dégoûte. Tu aurais dû mettre les voiles depuis longtemps. Trouver une porte de sortie. Laquelle ? Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas comment tu en es arrivé là, enfermé dans ton corps, comme dans une prison. Allongé sur ton lit, usé, tu le sais. Il ne te reste que des regrets. Ce n'est pas des images que tu as vendues, c'est ton intégrité, et tu en payes le prix. Les ouvriers font une pause. Le bruit des ponceuses sur la façade s'est arrêté. Je regarde la montre du père posée sur ma table de chevet. La trotteuse, elle aussi, s'est arrêtée. Les antalgiques font leur effet. Il faudrait que je change la pile. Le temps est suspendu. Il s'est enfin arrêté. Je m'endors. Je rêve de lui. Le père. Il est là, sur le quai de la gare. L'été 80. Il me parle, mais je ne l'entends pas. Je le fais répéter. Il répète. Je ne comprends pas. Je le fais répéter encore. Je ne comprends pas. Et encore. Je ne comprends pas. Et encore. Je ne comprends toujours pas. Encore une fois, s'il te plaît. Encore. 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 S'il te plaît. Encore. Encore. Encore, s'il te plaît. 13h. On sonne à la porte. Je me réveille. Je me lève. Je traverse l'appartement en me tenant au mur. J'ouvre. Clara. Toujours les mêmes yeux noirs et brillants autour duquel se sont invités quelques rides. Merci d'être venue. Me remercie pas, elle dit. T'aurais dû m'appeler plus tôt. Clara me prend dans ses bras. Blottie contre elle, je me mets à chialer comme une gosse. Allongée sur mon canapé devant un thé et une boîte d'antalgique, on passera tout l'après-midi à rire en refaisant le monde comme quand on avait 20 ans. Ça me fera un bien fou. À la fin de l'été, je serai sur pied. Les douleurs se seront atténuées et je donnerai ma démission. L'appartement que nous avions acheté avec Thomas sera vendu. Je récupérerai ma part et je chercherai la porte de sortie. Pays d'Auge, printemps 2019, ma saison préférée. Les arbres redeviennent verts, les bourgeons apparaissent comme autant de promesses. Et écoutez, vous entendez ça? Non? Le silence. Bon, on entend les oiseaux chanter, bien sûr. Le bruit du vent dans les feuilles et les aboiements des chiens du voisin. Mais c'est plutôt bien ça, les chiens. Ils éloignent les sangliers. Je me rappelle la première année que j'ai passée ici, il y a 10 ans, les sangliers avaient retourné mon jardin dans la nuit. Un carnage. Tout ce que j'avais planté avait été dévoré, piétiné, saccagé. Un vrai champ de bataille. J'ai mis du temps à trouver cet endroit. Je l'appelle mon nid d'aigle. Il y a 12 ans, quand j'ai quitté Paris, j'ai sillonné la France pendant 2 ans à la recherche de cet endroit, mon nid d'aigle. J'ai toujours été amoureuse de la campagne anglaise, des paysages du sud de l'Angleterre. Et ici, dans le pays d'Auge, à côté de Libarot, j'ai retrouvé ces mêmes paysages. La même lumière, le même ciel, le même vert, les collines. Des paysages qui vous bercent l'âme, qui vous soignent. Quand j'ai trouvé cette maison, il y a 10 ans, ce qui m'a plu, même si elle était en ruine, c'est qu'elle était loin de tout. En haut d'une colline, au bord d'une forêt, qu'il y a un ruisseau qui coule derrière, qu'il n'y a pas de vis-à-vis, que le paysage vert se déroule jusqu'à l'horizon et que le terrain n'est ni trop petit ni trop grand, suffisamment grand pour y faire pousser tout ce que je mange et assez petit pour ne pas perdre des heures et des heures à débroussailler. Entretenir mon jardin me prend 4 heures par jour. C'est à peu près un mi-temps pour y faire pousser ce que je mange. Je produis plus que mes besoins. On pourrait nourrir 2 à 3 personnes, mais je suis toute seule, alors je donne le surplus. Quand je dis 4 heures, c'est une moyenne sur l'année. L'été, je peux y passer jusqu'à 8 heures par jour, et l'hiver beaucoup moins, bien sûr. Mais je parviens à produire quasiment tout ce que je mange, et c'est ma fierté. Je fais mes courses dans mon jardin. Je n'ai jamais remis les pieds dans un supermarché de grande distribution. Quand j'ai quitté la publicité, j'ai voulu sortir entièrement du système et c'est le seul moyen que j'ai trouvé. J'ai examiné mes besoins, manger, respirer, dormir. Ça commence là. Pour dormir, il me fallait un toit, cette maison. Heureusement, j'ai pu l'acheter. Pour respirer, être loin de la ville. Et pour manger, produire soi-même. C'est là que ça se complique. Mais j'ai appris. Je me suis demandé comment faisaient les anciens. J'ai cherché et je suis remontée jusqu'au début du 9e siècle, jusqu'aux Carolingiens, jusqu'à Charlemagne. Et j'ai commencé par suivre les préceptes d'un des capitulaires agricoles de Charlemagne, le capitulaire de Vilis. Ce capitulaire fait état d'une centaine de plantes, de fleurs, de légumes, de fruits et d'aromates qui devaient être cultivés et ordonnés dans les jardins du domaine royal pour fournir de la nourriture toute l'année. On y retrouve les légumes anciens, carottes, choux, poireaux, betteraves, oignons, ail, fenouil, céleri, fèves, concombres, artichauts, radis, laitues, des fruits, pommes, poires, coings, mûres, cerises, pêches, figues vertes, les plantes aromatiques, persil, coriandre, estragon, menthe, aneth, sauge, etc. J'ai rajouté à ça les légumes des mondes nouveaux, tomates, pommes de terre, poivrons, piments, courges, et je cultive tout ça. Moi-même, ici. Sans pesticides, en arrosant avec l'eau de pluie que je récupère et en faisant mon compost pour l'engrais. Le soir venu, je prends mon panier et je fais mes courses dans mon jardin. Et pour l'hiver, j'ai appris à conserver et à faire des réserves. Les pommes, je les mets dans des clayettes suspendues dans la grange à l'abri du gel et des rongeurs. Avec les coings, des gelées et des pâtes de coings, j'adore ça. Avec les fruits rouges, les fraises, les groseilles, des confitures. Avec les légumes, je fais des bocaux à l'eau vinaigrée et aux aromates du jardin. Bien sûr, il y a des choses que je dois encore acheter. Dans ce cas-là, je vais chez des fournisseurs locaux. Je privilégie les circuits courts. Mon rêve serait d'être entièrement autonome. De produire aussi ma propre électricité, mais j'en suis pas encore là. C'est la prochaine étape. J'ai rénové aussi ma maison moi-même. Tout ce que j'ai pu faire seule, je l'ai fait, à l'ancienne, comme les Romains. J'ai refait les murs toute seule, à base de chaux et de sable. Je me suis dit que si les murs des Romains tenaient toujours debout après 2000 ans, il devait bien y avoir une raison. Au début, personne n'y croyait, qu'une femme puisse se débrouiller, ici, toute seule, sans l'aide d'un homme. 10 ans plus tard. Même si ça n'a pas toujours été rose, en faisant au jour le jour avec les moyens du bord, même si j'ai eu peur, même si j'ai dû tout apprendre par moi-même, même si ça a été difficile, même si j'ai cru plus d'une fois que j'allais renoncer, je suis toujours là, et je leur prouve que c'est possible. Au beau jour, j'accueille ma famille. Mes nièces viennent se dorer la pilule au soleil dans le jardin, l'appel de la campagne. La plus jeune, Sandra, elle a 16 ans, me dit « Fred, tu as de la chance. » Elle ne m'appelle pas Tata, j'ai toujours trouvé ça mièvre. J'aime qu'elle m'appelle Fred. « Fred, tu as de la chance, » elle dit. « Non, c'est pas de la chance, c'est un choix, » je lui dis. « Tu te sens jamais seule ?» elle me demande. « Non, » je lui dis, « je ne me sens jamais seule. » La solitude est un mot absent de mon vocabulaire. Je ne sais pas ce que c'est. « Mais tu voudrais pas avoir un homme avec toi ?» elle me demande. « Me parle pas des hommes, » je lui dis. « Arrête, les hommes ont changé. Il te faudrait un mec plus jeune, » elle dit en riant. « Je me vois pas avec un junior, » je lui dis. « Je me vois pas avec un homme dans les pattes. » Ou plutôt entre les pattes, tu veux dire. on rit. Je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer à vivre seule dans mon nid d'aigle. À mon âge, on pense forcément à demain. Ce que j'aimerais, c'est fonder ici une sorte de maison communautaire. Vieillir dans une maison autogérée, participative et engagée. C'est utopique, je sais. Mais je me dis que je pourrais peut-être trouver 3 ou 4 personnes ouvertes d'esprit avec lesquelles je serais raccord. Hommes, femmes, transgenres, non-genrés, tout le monde est bienvenu. Partager les tâches et les factures. Avoir chacun un espace personnel et des espaces communs. La maison est assez grande pour ça. Rester indépendante et autonome le plus longtemps possible. Je rêve. Je rêve toujours de lui, de mon père. Il y a un rêve que j'ai fait plusieurs fois depuis que je suis venue vivre ici. Nous sommes tous les deux dans un musée, devant un tableau. Le tableau représente une maison et un jardin, en haut d'une colline. Je ne sais pas si j'ai jamais vu ce tableau ou s'il n'est que la projection de mon nid d'aigle. Dans mon rêve, mon père me tient la main et nous regardons tous les deux ce tableau. Il me dit « Fred, ne fais jamais rien dont tu ne puisses être fier. J'ai confiance en toi. Je t'aime. » Je l'écoute et je regarde le tableau. Je sens la chaleur de sa main dans la mienne. J'aimerais le prendre dans mes bras, mais dans mon rêve, mes yeux restent fixés sur le tableau. Je ne bouge pas. Je serre sa main. Je ne veux pas la lâcher. Je veux la sentir le plus longtemps possible, même si ce n'est qu'en rêve. Je me dis que c'est peut-être ce qu'il a voulu me dire, cet été 80, sur le quai d'une gare d'une ville alsacienne. Ne fais rien dont tu ne puisses être fière. J'ai confiance en toi. Je t'aime. De mon nid d'aigle, en me retournant sur ma vie, il y a bien des choses que j'ai faites dont je ne suis pas fière. S'il fallait tout recommencer, je changerais tout. Sauf cet endroit. Je regrette de ne pas avoir fait ce choix plus tôt. Mais sans héritage, en partant de rien, je ne pouvais pas me l'offrir. C'est une réalité. Ce serait hypocrite de nier que le système que j'ai quitté m'a aussi offert les moyens de trouver la porte de sortie. Et il aura fallu que je lui donne plus de 20 ans de ma vie pour en arriver là. Un système dont je vois jour après jour les ravages se perpétuer, se poursuivre, détruisant l'équilibre fragile de notre planète en l'espace de quelques décennies. Je n'ai pas dicté les règles du jeu, je le sais, mais je les ai appliquées. Jusqu'à ce que mon corps me dise « stop, ça suffit ». Et je m'en veux toujours aujourd'hui de l'avoir fait. Je ne milite pas, je ne fais pas de prosélytisme. En choisissant ce mode de vie, en transition, comme on appelle ça aujourd'hui, je donne juste un nouveau sens à ma vie. C'est ma rémission. Vivre en transition ne se résume pas à cultiver ses légumes, bien sûr, mais fait partie d'un tout dont le premier pas, pour moi, puisque j'ai fait ce choix seul, sans homme, était purement féministe. Être autonome, tout simplement. Je préfère le mot autonomie, d'ailleurs, à celui de transition. Même si la transition évoque une réalité bien concrète. L'urgente nécessité d'entamer une transformation, d'entrer en résilience, de repenser nos modes de vie, nos perceptions, l'organisation de nos sociétés, notre manière de consommer, l'empreinte écologique que nous laissons sur notre planète, de transiter vers un autre paradigme. Ma transformation m'a pris du temps. Ma résilience m'a pris du temps. Ne plus appliquer les règles du jeu ne me suffisait pas. Il me fallait refuser complètement de jouer. La décroissance s'est imposée d'elle-même, comme une évidence. Je sais bien qu'un système se change de l'intérieur. Mais j'ose espérer qu'au sein d'un tel système pyramidal, dans lequel 10% des habitants de cette planète détiennent avidement 90% des richesses illusoires, si la base refuse, par quelque moyen que ce soit, de soutenir le sommet, en sortant une à une et un à un du jeu, en refusant de continuer à le nourrir, le sommet finira bien par s'écrouler, et laissera l'horizon libre de voir apparaître un nouveau paradigme. À l'heure actuelle, la décroissance est le seul espace qui m'a permis de combler mon désir dévorant d'autonomie. Au sein d'une société qui ne m'en laissait pas la liberté, le seul espace qui m'a permis de m'affranchir de tout diktat. J'ai mis du temps, oui, car l'époque de ma jeunesse ne s'y prêtait pas. Il m'a fallu d'abord prendre conscience de la condition d'oppression dans laquelle les femmes ont été maintenues depuis des millénaires. C'est un processus assez long quand on a reçu, comme moi, une éducation patriarcale, qui était le modèle dans les années 60 et 70, au moment où tout chavirait dehors. L'image sacrée du père continue de me hanter jusque dans mes rêves. C'est paradoxal. Mais je préfère l'envisager comme une réconciliation plutôt que comme une injonction. Les hommes ne sont pas l'ennemi du féminisme. Beaucoup en sont les alliés. Je porte toujours sa montre à mon poignet. Je n'ai pas remis de pile. Non pas pour arrêter le temps. Quand on vit au présent, il n'y a rien de plus beau que le temps qui passe. Mais parce qu'aujourd'hui, je suis libre de mon temps de vie. Ici, dans mon nid d'aigle, je me sens en accord avec moi-même. Je me sens heureuse. D'un bonheur qui ne s'achète pas, qui ne se vend pas, qui n'a pas de prix. Mon jardin est devenu mon œuvre. J'y passe tout mon temps. La nature, pour moi, est une leçon permanente. Plus je suis proche de la terre, mieux je me sens. C'est comme si elle me transmettait sa force. Elle fait naître en moi un espace infini, une paix. Elle me fait comprendre que je lui appartiens. Au début, je voulais venir ici pour disparaître. Mais il s'est passé exactement l'inverse. En venant ici, en choisissant ce mode de vie, je me suis révélée à moi-même. Chaque jour que je passe dehors dans mon jardin, j'apprends. J'apprends qui je suis et d'où je viens. J'apprends que je suis un animal domestiqué. Mais je me rebelle. Je suis une femme sauvage.